Le carême a commencé depuis 10 jours. On est rendu déjà au quart du carême. Donc il est bien entamé. La semaine dernière, dimanche dernier, rappelez-vous, nous étions au désert avec Jésus. Et puis il en est sorti victorieux, annonçant la bonne nouvelle. Aujourd'hui, avec Jésus, il nous faut prendre de la hauteur. Nous changeons de décor. Après le désert, il nous faut, en ce début de vacances d'hiver, prendre rendez-vous avec le Seigneur en haut de la montagne. Car que ce soit avec Abraham, Pierre, Jacques ou Jean, Dieu nous donne rendez-vous dans la montagne. La montagne, dans la Bible, c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme. Nous avons sûrement en mémoire la rencontre de Moïse avec le Seigneur sur le mont Sinaï, une rencontre qui a duré 40 jours. Et ou bien nous avons aussi peut-être en mémoire celle de la rencontre entre Élie et le Seigneur sur le mont Carmel. La montagne, lieu de la rencontre entre l'homme et le Seigneur, lieu de la prière. Dieu, en cette deuxième semaine de carême, nous demande de monter sur nos montagnes. Et monter une montagne, ça demande des forces, ça demande de l'attention pour ne pas tomber sur les chemins escarpés. Ça demande aussi peut-être du courage quand il faut quitter nos plaines avec tout le confort. La montagne, c'est un lieu qui est aussi désert, un lieu qui peut être silencieux. Alors oui, pour la prière comme pour la montagne, il nous faut quitter notre travail, nos écrans, nos amis, nos loisirs. Il nous faut quitter le brouhaha incessant de la société qui se manifeste le plus clairement, sûrement, par les chaînes d'infos en continu. Dieu veut nous rencontrer, mais il ne veut pas nous rencontrer quand nous sommes dispersés. Il veut nous rencontrer quand nous sommes tout à lui. Alors, essayons peut-être cette semaine de remettre de bonnes habitudes pour ce temps de la prière. Si nous disons que c'est un effort, c'est déjà compliqué. Je disais la semaine dernière, les efforts de carême, ça n'existe pas. Un effort de carême, j'appelle ça un élan du cœur. Ça devrait être ça, normalement, que ce soit la prière, le jeûne ou l'aumône. Ça devrait être un élan du cœur pour retrouver celui qui compte le plus pour nous, le Seigneur. Alors peu importe où nous en sommes, peut-être certains n'arrivent pas encore à prier tous les jours, peut-être certains prient 5 minutes, juste le Notre Père, et peut-être on a des gens qui sont plus à l'aise dans la prière, qui prient un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et peut-être il y a même des carmélitains parmi nous qui prient 2 heures par jour. Peu importe où nous en sommes, prenons le temps de la rencontre avec le Seigneur, prenons les moyens d'y arriver, prenons peut-être un horaire fixe, prenons rendez-vous avec le Seigneur comme nous prenons rendez-vous chez le médecin. C'est vrai que quand tout va bien, c'est facile de croire en Dieu. Dans la première lecture, pour Abraham, tout va bien. Il est arrivé sur la terre de Canaan, il vient même de faire la paix avec le roi du coin, Abimélec. Et Dieu a exaucé sa promesse. Il lui a donné un fils, Isaac. Il sera le père d'une multitude. Les promesses de Dieu sont accomplies, tout va bien. Et permettez-moi du peu, Abraham vient de souffler ses 100 bougies. Il n'y a plus qu'à vivre une retraite bien méritée pour ce cher Abraham. Mais voilà que Dieu lui demande de lui offrir son fils, son unique. Chez nos disciples, c'est la même chose, tout va bien. Jésus a commencé son ministère, il guérit à tour de bras, il expulse les démons. Les gens sont de plus en plus nombreux. Encore quelques mois, Jésus va renverser les Romains et prendre la tête d'Israël. Mais voilà que, juste avant ce passage de l'Évangile, Jésus vient de faire la première annonce de sa mort et de sa résurrection. Alors nos hommes ont tout faux, ils sont désemparés. Dieu va alors saisir cette occasion pour leur révéler qui il est vraiment. Dieu leur montre son vrai visage. Ça ne veut pas dire qu'il se soit caché avant, mais plutôt que chez Abraham, Pierre, Jacques et Jean, il y avait comme un filtre, une mauvaise vision de Dieu, une mauvaise image de Dieu qui était inscrite en leur cœur. Pour Abraham, Dieu était un être qui s'était fait proche de lui, c'était devenu même un ami fidèle. Dieu avait réalisé toutes les promesses qu'il lui avait faites. Alors si Dieu lui demande son fils, c'est que Dieu doit avoir une raison. Dieu avait pourtant promis à Abraham qu'Isaac serait celui par qui il obtiendrait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu doit avoir ses pensées, sa logique, qu'on ne comprend pas toujours. Alors il obéit, car il sait qu'au fond, Dieu fait à sa manière. Nous, nous sommes aussi comme Abraham. On se demande si on est prêt à donner quelque chose au Seigneur. Nous craignons que si on donne quelque chose à Dieu, il le détruise. Si je vous demande à chacun, êtes-vous prêt à donner vos yeux au Seigneur? Est-ce que vous êtes confiant ou il y a une petite crainte de ce qu'il va en faire? Et même, on pourrait aller plus loin, êtes-vous prêt à donner votre vie au Seigneur? Est-ce que vous répondez oui ou vous avez une petite crainte? C'est la question de la vocation. Es-tu prêt à donner ta vie au Seigneur? Alors souvent, quand je témoigne, les jeunes sont tristes pour moi, ils sont malheureux. Oh là là, vous êtes malheureux, vous ne pouvez pas vous marier, vous êtes tout seul. Comme si, quand on répond à l'appel du Seigneur, il faut en baver. Comme si on doit être malheureux pour calmer la colère de Dieu. Alors je vous rassure, je suis très heureux dans mon ministère. Et il nous faut détruire cette mauvaise image de Dieu comme si il allait nous punir. Cette image de Dieu, elle est inscrite en nous depuis le péché originel. Alors il y a un travail de purification à faire dans chacun de nos cœurs. Ce n'est pas Isaac qui va être tué. C'est Dieu lui-même, en Jésus, sur la croix. Dieu ne veut pas la mort du pécheur aucunement. C'est pour ça qu'il va se sacrifier pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie, une vie éternelle. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors, ça serait bien que ça rentre dans notre tête, que Dieu nous aime et nous veut vivants. S'il nous appelle à lui offrir un moment de notre vie ou notre vie tout entière, en étant prêtre, religieuse, marié, diacre, ce n'est pas pour en baver, c'est pour être heureux. Quant à nos disciples auprès de Jésus, ils sont dans la stupeur, ils ont même peur. Leur maître, leur ami se met à resplendir de mille feux et ils se trouvent entourés de Moïse et d'Élie. Et cerise sur le gâteau, Dieu le Père va faire son apparition, en tout cas on va l'entendre, désigner Jésus comme son fils bien-aimé. C'est clairement une théophanie, une manifestation de Dieu. Jésus, le fils du charpentier, Jésus de Nazareth, est le fils de Dieu. Alors malgré sa peur, Pierre va oser une parole. Installer trois tentes pour ces trois glorieuses personnes. Et là encore, de la même façon que la montagne est un lieu de la rencontre avec le Seigneur, la tente aussi est un lieu de rencontre avec le Seigneur. Rappelez-vous, au temps de l'Exode, durant la traversée du désert du Négev, eh bien, il y avait cette tente de la rencontre avec le Seigneur. Toujours, finalement, ce lieu de la prière, ce lieu du cœur à cœur avec le Seigneur qui est recherché. Alors pour nous, quelles sont les images de Dieu qui sont faussées en nous? Allons plonger dans la prière, ou plutôt grimper sur la montagne de la prière, pour que Dieu nous révèle qui il est vraiment, un Dieu d'amour et de tendresse. Après avoir prié, bien sûr, il nous faudra redescendre, car il peut y avoir une tentation de se complaire dans la relation intime avec le Seigneur dans la prière. Mais Dieu ne veut pas que nous restions simplement avec lui. Il nous veut avec lui en redescendant de la montagne. Et c'est le chemin que prend Jésus en redescendant de la montagne. Il leur a annoncé, il faudra mourir et ressusciter. Jésus leur ordonne d'abord de ne rien dire jusqu'au jour de sa résurrection. Jésus le sait bien, tout fils de Dieu qu'il est, il devra passer par la passion. Et c'est sur une autre montagne qu'il devra monter le vendredi saint, sur le Golgotha. Alors les apôtres ne comprennent pas vraiment, mais restent fermement attachés à la parole de Jésus. Cette voix entendue dans la nuée, cette voix du Père, leur a bien dit « Écoutez-le ». Alors en attendant Pâques, à l'exemple de Marie qui gardait et méditait les paroles de Dieu dans son cœur, eh bien prenons ou reprenons le temps de la prière et redescendons de notre prière, fortifiée par celle-ci, pour vivre notre chemin de Pâques. Oui, frères et sœurs, ensemble, poursuivons notre route de carême et portons-nous les uns les autres dans la prière. Amen.